Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Un désir d'enfant coupé net en Pologne. Les familles qui ont des problèmes de fertilité ne seront plus aidées pour procéder à de coûteuses fécondations in vitro. Faute d'avoir pu interdire complètement l'avortement, le gouvernement populiste Droit et Justice entend bien poursuivre sa révolution conservatrice dans le domaine de la famille et de la procréation. Prenant la suite d'une législation très restrictive, initiée dès 2015 par l'ancien gouvernement, le pouvoir a décidé de ne plus accorder aucun financement public pour les FIV. On estime que dans le monde occidental, entre 20 et 25% des couples ont des problèmes de fertilité. Ce sont donc des milliers de couples polonais qui ont été concernés par la réforme. Reportage à Varsovie de Frédéric Lebel.
Officiellement, les aides publiques pour les fécondations in vitro ont été suspendues en juillet dernier. Pour la clinique Invicta, spécialisée dans le traitement de l'infertilité, ces mois de transition ont été très douloureux. Dr Michal Kunitski est un des gynécologues de la clinique.
Malheureusement, on a eu des couples qui ont eu dans un premier temps un financement public, mais les fécondations in vitro, vous savez, ça ne marche pas à tous les coups. Donc pour la deuxième FIV, ils n'avaient plus d'aide financière. Et ils ont été obligés de s'arrêter là. Certains faisaient les analyses et savaient qu'ils ne pourraient pas aller au-delà. Alors les femmes, surtout, se mettaient à pleurer. J'ai assisté à des drames personnels, des couples qui cherchaient à obtenir un prêt ou qui devaient abandonner.
Dans les laboratoires d'Invicta, on stocke les ovocytes et les spermatozoïdes des patients. Et là, c'est une autre loi passée sous la précédente législature qui interfère avec le travail des médecins. Depuis fin 2015, seuls 6 ovules peuvent désormais être fécondés simultanément. Julia est une patiente, on devrait peut-être dire aujourd'hui cliente. Elle a passé tout juste la date fatidique du dépôt de dossier l'été dernier pour bénéficier de l'aide publique. Elle affiche aujourd'hui une grossesse radieuse, mais elle ne décolère pas.
Cette nouvelle loi, elle favorise que les plus riches, parce que pour nous, la classe moyenne, c'est trop cher. En plus, ils ont établi une limite au nombre d'ovules qui peuvent être fécondés en même temps et à ceux qui peuvent être congelés. C'est dramatique. C'est excessivement cher et en plus, c'est très dur pour le corps de la femme. C'est une loterie, vous savez pas ce qui va marcher. Donc là, ils diminuent les chances de fécondation.
Julia et son mari sont tous les deux employés dans le secteur du marketing et pourtant elle sait qu'ils ne pourront jamais financer une autre FIV pour un deuxième enfant. Aujourd'hui, elle tente juste de faire accepter à ses proches cette première grossesse.
Vous savez, même parmi mes amis, beaucoup n'acceptent pas que j'ai eu recours à la procréation artificielle. Ici en Pologne, on est montré du doigt. Il faut dire que c'est un pays profondément catholique. Et avec mon mari, on ne se sent pas accepté. On en a parlé et si ça continue, on va partir pour être considérés comme des gens normaux. Pourtant, ça n'a rien d'extraordinaire ce qu'on a fait. Mais ici, il y a des histoires folles. On dit que ces enfants conçus par FIV sont des monstres, qu'ils ont des problèmes génétiques. Je vois pas pourquoi mon enfant serait stigmatisé, y compris sur son acte de naissance.
Pour l'instant, l'inscription née par FIV sur un acte de naissance reste le fait d'une seule municipalité, mais ce dérapage en dit long. Dans un café où elle travaille sur ses dernières publications, on retrouve la sociologue Anna Krawczak. Elle a pu bénéficier d'une FIV en 2009, autant dire il y a une éternité. Aujourd'hui, elle observe l'hystérisation du débat.
Ils utilisent toutes sortes d'arguments contre la FIV. Il y a bien sûr la figure de l'enfant non-né. C'est cette expression qu'ils utilisent. Ce n'est pas un groupe de cellules ou un fœtus, mais bien une personne en devenir. Ils présentent aussi les ovules congelés comme des enfants. Et puis, on présente les enfants issus de la FIV comme des enfants de Frankenstein. On dit qu'ils sont différents, qu'ils vont avoir d'énormes problèmes de santé. On les présente comme des monstres parce qu'ils ont été conçus par FIV.
Dans ce climat bien peu serein, plusieurs grandes villes tentent de compenser le désengagement de l'État. Elles ont mis en place une aide financière, mais qui ne représente au mieux qu'un tiers des dépenses.
« En Slovénie, les musulmans sont priés d'aller se faire enterrer ailleurs. Face à l'impossibilité de reposer en paix selon les préceptes de l'islam, la moitié des musulmans du pays choisit d'aller se faire inhumer dans leur pays d'origine, généralement un pays de l'ancienne Yougoslavie, Simon Rico.
Dans une Slovénie dominée par la religion catholique, la petite minorité musulmane est plutôt bien intégrée. Ici, la plupart des fidèles de l'islam sont originaires de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine et du Kosovo, trois États qui furent, comme la Slovénie, membres de l'ancienne Yougoslavie socialiste. Et pourtant, chaque année, la moitié des défunts musulmans sont enterrés dans leur pays d'origine. Pour les Albanais de Macédoine et du Kosovo, c'est même devenu la règle. La tradition musulmane demande en effet de respecter toute une série de rites, laver le corps du défunt, l'entourer d'un linceul blanc et le positionner dans sa tombe avec le flanc droit tourné vers la Mecque. Or, pour le moment, les municipalités slovènes qui permettent cela se comptent à peine sur les doigts d'une main. Maribor, Jesenice, Celje, Kranj et Krško. Dans la capitale Ljubljana, un carré musulman a bien été ouvert après la Seconde Guerre mondiale, dans le grand cimetière de Jale, mais il affiche complet depuis longtemps. Quant au nouvel espace de 100 tombes, ouvert après l'arrivée de 70 000 réfugiés bosniaques pendant la guerre des années 1990, il a lui aussi été vite rempli. Aujourd'hui, les musulmans qui choisissent le cimetière de Jale y reposent donc anonymement au milieu des autres tombes. Il y existe pourtant des parcelles réservées aux Allemands, aux Italiens, aux Autrichiens, aux Juifs et même aux victimes de la catastrophe aérienne du Mont San Pietro en 1981. Il y a une dizaine d'années, les instances musulmanes slovènes avaient bien demandé l'ouverture d'un nouveau carré, mais sans succès. Comme le reconnaissent ses dirigeants, la priorité était alors d'obtenir l'autorisation pour bâtir la mosquée de Ljubljana, un projet qui traînait depuis plus de 50 ans. Maintenant que celle-ci est enfin en construction, la situation pourrait évoluer. C'est en tout cas ce qu'espère la communauté musulmane de Slovénie.
Plusieurs maires de grandes villes libyennes ont fait récemment le déplacement à Bruxelles dans le cadre d'un projet de coopération avec des villes européennes, l'initiative de Nicosie. Avec cette question de fond, comment reconstruire une ville après la dictature sur des bases démocratiques? Le reportage d'Aline Wavreille et Jean-Marc Virset de la RTBF.
Bruxelles aux petites heures, dans les locaux de la région flamande. Une formation en arabe. L'auditoire vient en fait de Libye, une dizaine de maires et de conseillers de grandes villes comme Tripoli ou encore Zintane.
Mon nom est Moustapha Mohamed Al-Barouni. Je suis le bourgmestre de la commune de Zintane. C'est une ville qui se trouve à l'ouest du pays. Zintane est une nouvelle commune. En fait, comme toutes les communes de Libye, puisque cette institution n'existait pas.
Et c'est justement pour cela qu'ils sont ici. L'échelon communal n'existait pas sous la dictature du colonel Kadhafi, étant donné la verticalité du pouvoir de l'époque. Donc tout est à construire, l'architecture d'une commune, mais avant ça même, la base d'un système démocratique. Et c'est ce qui est abordé dans cet atelier mené par Kinda Attar de Transparency International.
Aujourd'hui, on va parler de la transparence et de l'intégrité et de comment construire un système après des changements et des transformations. Quelles sont les choses essentielles à mettre en place pour installer un système démocratique? Après la chute du régime de Kadhafi, le pays s'est dissous en milices et en différents gouvernements qui tentent de prendre le pouvoir. Et reconstruire tout ça, ça va demander beaucoup de temps, d'efforts de la part des gens, des médias et de la société civile, mais aussi du gouvernement pour créer des lois et une législation.
Le gouvernement, lui, n'est pas invité par contre. La situation en Libye est très compliquée. Il existe un bras de fer entre deux gouvernements, l'un à l'est et l'autre à l'ouest du pays. Celui qui est reconnu par la communauté internationale n'a qu'une très faible capacité d'action. Or, l'Union européenne veut rétablir le contact avec ce pays très stratégique pour elle, notamment sur les questions de migration. Il fallait donc trouver d'autres interlocuteurs. La philosophie de l'initiative, c'est alors de partir des besoins de ces villes, puis de les mettre en contact avec des voisines européennes qui ont une expertise dans les domaines qui les intéressent.
Then, let's have a look at the main principles of the municipal funds.
Exemple ici, la région flamande et la gestion financière d'une commune. Mais il y a des choses bien plus pratiques. Il y a quelques mois, les maires libyens sont allés à Anvers découvrir comment fonctionnait la gestion des déchets. Autre formation dans la ville portugaise de Villarreal. Là, il était question des soins de santé. Luís Gomes est le maire qui les a invités.
Notre objectif est, pour un lado, aider.
Notre objectif est d'une part d'aider à reconstruire un système de santé local, mais aussi d'autre part collaborer plus directement à la formation concrète des infirmiers. Pour cela, on négocie avec le ministère portugais de la Santé et avec l'ordre des infirmiers portugais pour pouvoir former ces gens dans les hôpitaux publics portugais.
Poderem treinados diretamente num hospital público português.
Il y a aussi des projets autour de la gestion de l'eau, mais aussi de la déradicalisation des jeunes. Des projets constructifs qui devraient aboutir à des formations ou encore à l'envoi d'experts. Mais ce que l'on comprend aussi au contact des élus locaux, c'est que le contexte, le terrain est extrêmement chaotique. Des obstacles nombreux. Avant de parler de gestion financière, ce conseiller de la ville de Tripoli, Ibrahim Arebi, voudrait d'abord disposer d'un budget.
Dans toutes les communes dans le monde, à Bruxelles, Londres ou encore Paris, il existe des taxes locales qui viennent financer les communes. L'État leur octroie aussi des fonds, mais en Libye, notre réalité, c'est qu'il nous est interdit de lever des impôts auprès des citoyens. La loi ne le permet pas pour aucune taxe d'ailleurs. Et ça va plus loin que cela. Le gouvernement bloque en plus l'ouverture d'un compte pour les entités locales.
Ici, tout le monde en est conscient. Reconstruire le pays, c'est un travail de longue haleine et qui devra aussi passer par le niveau national. Mais en attendant, pour ces villes libyennes, cette coopération avec leurs voisines européennes, c'est une direction et un soutien précieux.
En France, c'est l'une des mesures proposées par le candidat à l'élection présidentielle François Fillon, abaisser la majorité pénale à l'âge de 16 ans contre 18 actuellement. L'occasion de dresser aujourd'hui un panorama de la justice des mineurs en Europe avec Daniel Vigneron de myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Majorité pénale, que recouvre exactement ce terme ?
Être pénalement majeur signifie que l'on est traité en matière pénale exactement comme un adulte. Or, le droit pénal des mineurs présente deux différences majeures par rapport à celui des adultes. D'abord, jusqu'à cette majorité pénale, toute peine prononcée doit s'accompagner de mesures éducatives et de protection. D'autre part, la justice des mineurs doit être rendue par des tribunaux spécifiques, distincts des tribunaux de droit commun, dans la mesure où ils sont composés de personnes s'intéressant à l'enfance. En France, il y a ainsi le juge pour enfants, les tribunaux pour enfants et, de 16 à 18 ans, la cour d'assises des mineurs. Ramener la majorité pénale à 16 ans reviendrait à faire juger les plus de 16 ans par des tribunaux pour adultes, ce qui est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui définit justement l'enfant comme un mineur de 18 ans.
Alors Daniel, si la majorité pénale était abaissée à 16 ans, est-ce que la France ferait exception en Europe ?
Oui Laurent, on peut le dire. Quasiment partout, en vertu de la Convention internationale mentionnée, l'âge de la majorité pénale est fixé à 18 ans. Il y a néanmoins quelques exceptions relatives en Europe. En Pologne, la majorité pénale est fixée à 17 ans. Au Portugal et en Roumanie, elle est théoriquement de 16 ans, mais des sanctions spécifiques aux jeunes ou une excuse de minorité peuvent être mises en œuvre jusqu'à 18 ans. Enfin, en Scandinavie, la notion de majorité pénale n'existe pas à proprement parler. À l'inverse, dans plusieurs pays, des dispositions spécifiques aux jeunes peuvent s'appliquer jusqu'à 21 ans. C'est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède, et un régime dérogatoire est même possible en Suisse jusqu'à l'âge de 25 ans.
Donc Daniel, la minorité pénale n'empêche donc évidemment pas le prononcé et l'application de peine.
Ah bien sûr que non. Il ne faut pas confondre majorité pénale et âge de la responsabilité pénale. Âge à partir duquel les mineurs peuvent être condamnés. Mais ces mineurs sont protégés par des dispositions spécifiques visant à les réinsérer au plus vite dans la société. Dans tous les pays, tout crime ou délit commis par un mineur est assorti de mesures éducatives, de mise à l'épreuve, d'admonestation, d'obligation de réparer les dommages. De plus, les mineurs ne peuvent en aucun cas être emprisonnés dans des prisons pour adultes. Il y a ainsi en France des centres éducatifs ouverts ou fermés, ainsi que des établissements pénitentiaires pour mineurs, ou au moins des quartiers réservés aux mineurs dans les établissements de droit commun. Abaisser la majorité pénale aurait logiquement pour effet de réintégrer les 16-18 ans dans les prisons pour adultes.
Alors en Europe, les mineurs sont considérés comme pénalement responsables à partir de quel âge ?
Contrairement à la majorité pénale, ces âges sont très variables concernant la responsabilité pénale. En France, ce que l'on ignore souvent, il n'y a pas véritablement d'âge minimum pour la responsabilité pénale et de très jeunes enfants peuvent être l'objet de mesures éducatives. Mais pratiquement, il n'existe pas de poursuite pénale avant l'âge de 13 ans en France. Cette limite est fixée à 14 ans en Allemagne, Italie et Espagne et elle est même de 16 ans en Belgique ou au Portugal. Elle est en revanche plus précoce en Suède ou aux Pays-Bas, 12 ans, et la responsabilité pénale s'exerce même à partir de 10 ans en Angleterre ou en Suisse.
Ça signifie donc qu'à cet âge, les enfants peuvent être emprisonnés ?
Pas forcément. La France est l'un des pays qui permet l'emprisonnement précoce, dès 13 ans. Toutefois, quel que soit le crime, la peine ne peut être en aucun cas, jusqu'à 16 ans révolus, supérieure à la moitié de la peine prévue pour un adulte. Ce fut le cas, par exemple, d'un jeune manceau de 15 ans, condamné pour meurtre en 2015 à 10 ans de prison, et qui encourait 15 années de réclusion au lieu des 30 prévues pour un adulte. Mais ce verrou de la peine réduite saute à 16 ans en France. Ailleurs en Europe, ces réductions de peine s'appliquent également, mais souvent jusqu'à un âge plus avancé. Quoi qu'il en soit, en Allemagne comme en Belgique, pas de prison avant 16 ans. En Italie, l'emprisonnement est possible à partir de 14 ans, sous réserve que la maturité du jeune soit suffisante. En Suisse, pas de prison avant 15 ans et pas avant 18 ans en Espagne. Seuls l'Angleterre et les Pays-Bas permettent l'incarcération dès 12 ans, mais les cas sont rares.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt.
À bientôt Laurent.
Une disparition qui marque la fin de toute une époque en Irlande, celle de l'ancien cascadeur de cinéma Pascal Whelan. Il était aussi le dernier résident permanent de l'île d'Omey, face à la région du Connemara, à l'ouest du pays. Julien Lagache.
Omey n'est qu'un morceau de terre et d'herbe d'un kilomètre carré, avancé sur l'Atlantique, mais accessible à pied à marée basse. On y trouve les vestiges d'un monastère du VIe siècle. Malgré sa petite taille, l'île a compté près de 400 habitants jusqu'à la grande famine survenue il y a un siècle et demi. Elle s'est ensuite lentement dépeuplée, il n'était plus qu'une poignée d'irréductibles dans les années 70. C'est là qu'est né Pascal Whelan, il y a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans avant de déménager avec ses trois frères et sœurs et ses parents au Pays de Galles. À 19 ans, Pascal s'envole pour l'Australie, il y devient plâtrier, mais brièvement car il se laisse tenter par une école de catch puis de comédie où son goût du défi et des acrobaties le propulse finalement cascadeur. C'est mieux comme ça parce que j'étais un piètre acteur, reconnaît Pascal Whelan qui réussit peu à peu à se faire un nom. Doublure de Paul Hogan dans Crocodile Dundee, il est au générique de Butch Cassidy et le Kid ou encore de Vivre et laisser mourir, le 8e James Bond. Il est demandé partout. À l'époque, je pouvais tourner sur 3 ou 4 films différents dans la même journée, raconte-t-il. Mais la nostalgie de la terre qu'il a vu naître le ramène au pays en 1973. Il essaie de mettre sur pied une école de cascadeurs à Dublin, mais la mort d'un collègue et ami quelques années plus tard met fin à l'aventure. Pascal Whelan se retire alors sur l'île d'Omey, où il troque l'adrénaline et l'agitation des plateaux de tournage contre le calme de la marche et la patience de la pêche. Dernier habitant de l'îlot qu'il a vu naître, l'ancien risque-tout rencontre lors d'une promenade le photographe Kevin Griffin. Il devient son ami et le sujet d'une de ses expositions, le dernier homme d'Omey Island, photo réaliste prise sur le vif d'un quotidien insulaire et solitaire. L'histoire de sa carrière sera ensuite racontée dans un livre et un documentaire. Une vie tout en contraste qui s'achève le jour de ses 75 ans. Pascal Whelan avait l'habitude de boire une pinte le soir dans le village côtier de Clatterduff et de rentrer avant la dernière marée. Accompagné de ses voisins et amis venus lui rendre un dernier hommage, il a donc traversé une ultime fois la langue de sable qui le ramenait chez lui pour y être mis en terre avant que l'océan ne se referme une fois encore sur l'île désormais déserte.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 12h40 en universel et tout de suite sur RFI.fr à la page émission et sur les réseaux sociaux. À demain.